Encore une fois, merci Alexis pour ces excellents beds de On en jase, des nouveaux beds plus rock. Pascal, c'est donc bien le fun. Vous rappelez que Pascal va être en congé demain, je vais m'ennuyer.
Ben oui, mais moi aussi.
C'est ça.
En deux temps.
OK.
Pas
parfait.
Vraiment, parce que des vacances,
ouais,
ça va faire du bien.
Exactement.
De l'autre côté, ben
mais
oui, c'est fun.
Ben oui,
toi.
C'est ça. Nathan Meilleur sera avec moi demain. Vous pouvez l'entendre sur les ondes de week-end dans le retour. J'ai très hâte de faire de la radio avec Nathan. Ça va être la première fois qu'on va être ensemble en ondes.
La famille
donc,
en ondes.
La famille en ondes.
Petit cousin, tiens,
disons. Ouais, c'est ça. Ça, exactement. Ah. C'est le mari de ma cousine. Fait qu'on va bien s'amuser. L'entreprise familiale, là, de la communication, ouais.
Ah oui, même parmi les animateurs.
Exactement. Pascal, je t'en ai parlé parce qu'on est également ensemble le matin avec l'absence de Yannick Marceau qui revient de vacances, soit dit en passant, lundi prochain.
Ouais.
Et je t'ai parlé que j'ai visité la maison L'Aube-Rivière cette semaine. Puis.
Un peu plus que visité. Tu as quand même remis un chèque de 1 000 avec la
ouais,
fondation.
Oui, exactement, avec
Guillet.
Le fonds philanthropique Catherine Guillet. Donc, c'est mon petit dada, c'est ma petite fondation que j'ai créée au nom de mon amie Catherine, qui est malheureusement décédée trop tôt à l'âge de 36 ans. Puis ça me permet de m'impliquer dans la communauté et j'adore le faire. Alors, je suis allé remettre un chèque de 1 000. Je voulais pas le dire, mais vu que tu l'as dit, je vais le dire.
Non, moi, je souligne ça.
OK, parfait. Et là, ben, j'ai rencontré Rick Boulay, qu'on a souvent en onde. Puis il m'a dit, hey, Jeff, viens, on va faire le tour. De la maison. Donc, j'ai fait le tour de l'Aube-Rivière avec un Eric toujours bien motivé puis toujours bien dynamique. Puis, ah ouais, viens, tape, viens, je vais te montrer c'est quoi le programme Prisme. Ça fait souvent qu'on t'en parle à la radio. C'est des gens qui vivent de l'itinérance, qu'on amène en logement, qu'on accompagne. Ça leur permet de réintégrer la société. Il m'a fait visiter un logement. Et là, je suis tombé sur une personne extraordinaire, c'est-à-dire Julie, et je suis tombé sur Florence, qui travaille pour le programme Prisme et que je leur ai demandé, j'ai dit, ben là, vous n'avez pas le choix, vous allez venir nous en parler en nombre. Là, au début, ce combat-là était gêné. Hein? Il disait, ben voyons, non, ça se fait pas, tu ne nous feras pas ça. Mais j'ai dit, ouais, vous n'avez pas le choix, vous allez venir nous en parler en nombre. Alors, Florence et Julie, bonjour, bienvenue à Boulevard 102.1.
Merci.
Ça fait plaisir. Le programme Prisme, si on veut l'expliquer rapidement à nos auditeurs, qu'est-ce que le programme Prisme, pourquoi c'est arrivé et qu'est-ce que ça fait en tant que tel?
Bien, le programme Prisme, ça a pour but d'accompagner les gens qui vivent avec des enjeux de santé mentale. On les accompagne pour, comme vous disiez tantôt, là, se relocaliser. Le but, c'est de trouver un milieu de vie qui va être adapté pour eux, puis qu'on les accompagne durant une période de 3 mois, pour stabiliser leur état, puis que ce soit au niveau des démarches administratives, au niveau de la santé physique, de la santé mentale, puis prendre un temps aussi pour se déposer. Tu sais, l'itinérance, c'est une période qui est difficile, donc on les accompagne au courant de cette période-là.
C'est uniquement pour les gens qui ont bon, des problèmes de santé mentale, si je comprends bien. 3 mois, est-ce que c'est trop court ou 3 mois? On peut vraiment faire des changements importants?
C'est étonnant comment on peut faire des changements importants en 3 mois. C'est sûr qu'il y a des situations où ça peut prendre un petit peu plus de temps. On a la chance d'avoir cette flexibilité-là aussi, de pouvoir accorder plus de temps. Mais en 3 mois, on voit des beaux résultats, vraiment.
Quels sont les résultats, justement, concrets? Est-ce que c'est 100% des gens que vous accompagnez que vous réussissez, justement, à... Je parle toujours de réintégrer à la société. C'est quoi les défis que vous vivez? Comment ça se passe sur le terrain?
Je dirais que pas 100% des gens, mais c'est sûr qu'on a vraiment des belles réussites. T'sais, des gens qui venaient à l'Aube-Rivière depuis des années. T'sais, moi, ça fait 17 ans que je travaille là, puis il y a des gens que je vois depuis mes débuts à l'Aube-Rivière. Puis on a vraiment vu des gens qui ont des belles réussites, ou ce qu'on a vu des gens améliorer leur santé mentale, puis après ça, se relocaliser. T'sais, des gens qui vivaient dans l'itinérance depuis 30 ans, là.
Qu'est-ce qu'on fait pour que ça améliore leur santé mentale après tant d'années, par exemple, à être bénéficiaire puis à ne pas avoir de changements aussi impressionnants que ceux que vous touchez avec le programme Prisme?
Bien, on a la chance d'avoir un partenariat super important avec le CIUS. On a un psychiatre qui vient 2 fois par semaine. On a aussi une infirmière puis une travailleuse sociale qui nous accompagne. Donc, l'aide médicale, là, vraiment, là, du psychiatre, l'infirmière fait une grande différence pour les gens qui ont des enjeux de santé mentale. Fait que des fois, cet aspect-là est très important. C'est quelque chose qu'ils n'ont pas eu accès durant une bonne période de temps. Souvent, pour d'aller dans les hôpitaux, c'est intimidant. C'est pas nécessairement ce qui est souhaité pour tout le monde. Donc, l'approche communautaire, on est plus proche, on est plus accessible, on est beaucoup moins intimidant. Donc, d'avoir des soins en santé mentale, c'est plus facile. Donc, ça, c'est, je pense, un facteur très important. Puis sinon, ben je dirais... C'est ça, ça serait le plus important. C'est vraiment
le plus important.
C'est vraiment la clé.
Des experts, là, entre autres le psychiatre qui se déplace puis qui prend en charge les patients. Comme s'ils étaient entrés finalement sur, dans le système de santé officiellement avec un suivi serré.
Oui, c'est ça. C'est une équipe multidisciplinaire là, qui accorde beaucoup, c'est une intensité de soins qui peut, qui se compare pas nécessairement aux hôpitaux. On va laisser aussi le travail des hôpitaux aux hôpitaux, mais des fois, si on peut éviter aux gens d'aller à l'hôpital, d'être hospitalisé, de vivre ça entre quatre murs d'un hôpital, c'est beaucoup plus facile de le faire en communauté.
Ouais. Il y a plusieurs étages à l'Aube-Rivière avec plusieurs services différents à l'étage du rez-de-chaussée. Puis pour Pascal, tu sais, tu as déjà fait du bénévolat toi aussi comme moi. C'est le centre de jour. Est-ce que justement, c'est la place où on va venir recruter nos candidats pour le programme Prisme?
Tout à fait. Le centre de jour, effectivement, on a eu plusieurs références du centre de jour, de la halle, du dégrisement aussi. Donc, c'est nos collègues là, des hébergements aussi, l'hébergement femmes, l'hébergement hommes, c'est tout des gens qui sont référés. Puis on fait le tour aussi des autres sources. Hein. On travaille dans... C'est pas tout le monde qui vient à l'Aube-Rivière non plus, qui vit l'itinérance, puis qui vient à l'Aube-Rivière. Donc, on est allé visiter les autres sources en itinérance, la Dauphine, après ça, Projet Lune, des choses comme ça, pour essayer aussi de présenter le projet, puis aussi qu'ils peuvent nous faire des références. Mmh. Là.
Comment est-ce qu'on les convainc? Parce que la motivation, c'est la clé du succès bien souvent. C'est le fait de vouloir soi-même se prendre en charge qui fait changer des habitudes habituellement. Puis le hic, c'est qu'à un moment donné, quand tu vis cette situation-là, tu dois perdre espoir à un moment que ça va changer. Tu dois avoir fait avec le fait, justement, que ta vie, c'est celle-là. Comment est-ce que vous ravivez ou vous faites naître, en fait, cette lumière-là dans la tête des gens où vous allumez le désir de changement puis d'intégrer la vie normale ou régulière?
Bien, je pense qu'il y a un élément vraiment important. Vous parlez de motivation, mais j'irais beaucoup pour la confiance aussi. Souvent, c'est des gens qui peuvent être méfiants envers les services, envers bien, tout ce qui est les institutions. Donc, de gagner la confiance de ces gens-là, c'est vraiment là, ce qui nous permet de les aider davantage. Si ça peut prendre du temps. On a des gens que ça a pris plusieurs mois avant qu'ils acceptent de venir au sixième étage à l'Aube-Rivière, mais c'est toujours des beaux succès, puis c'est toujours... C'est vraiment la patience qu'il faut, puis de comprendre qu'ils sont méfiants envers nous, puis qu'ils n'ont pas confiance que ça va vraiment les aider. Mais on travaille avec des équipes externes aussi qui connaissent bien ces gens-là, puis qui, des fois, eux les amènent, on leur fait visiter le secteur, on leur montre que, tu sais, le faire abaisser un peu cette méfiance-là, des fois, ça prend plusieurs visites, puis éventuellement, ils voient « Ah, ben oui, c'est vrai que ça serait bien, ça me ferait du bien. » Fait que c'est beaucoup ça.
Concrètement, qu'est-ce qu'on apprend ou réapprend à ces gens-là lorsqu'ils arrivent en logement, justement, au sixième étage? Parce que j'ai visité les logements, ils sont super beaux, c'est un beau 2,5 avec une chambre, une aire ouverte, cuisine, salon, salle de bain, donc puis honnêtement, t'sais, le mobilier est beau, c'est vraiment pour t'sais, pour ces gens-là, pour se remettre
du
en
confort,
selle, ouais, du confort. Comment qu'on fait? Qu'est-ce qu'on leur réapprend, justement, pour après ça, qu'on n'ait pas peur qu'ils retombent une fois qu'ils ont quitté les murs de l'Aube-Rivière?
On travaille beaucoup la routine, l'hygiène de vie aussi. Là, t'sais, y a des gens aussi qui n'ont pas... Dans la rue, tu n'as pas accès à une douche, tu n'as pas accès à des repas non plus 3 fois par jour. Fait on met vraiment comme une horaire aussi, des heures de rentrée, mais on s'adapte aussi avec certaines personnes. T'sais, quelqu'un qui a vécu plusieurs années dans la rue, ça se peut qu'elle ne rentre pas tous les soirs, puis on va s'adapter à ça aussi. Mais d'essayer de vraiment de reprendre une routine qui, de vie qui est plus saine. Donc, c'est ça, les 3 repas par jour, dormir la nuit aussi. Fait qu'on va vraiment prendre le temps avec eux. Puis des fois, c'est ça, il y a des gens que ça ne sera pas dès le départ qui vont avoir cette routine-là, mais le but, c'est de s'en aller vers cette routine-là pour ensuite qu'ils puissent s'intégrer.
Qu'est-ce qui les convainc? Qu'est-ce qui leur fait le plus plaisir? C'est-tu de manger 3 fois par jour? C'est-tu le lit? C'est-tu de ne pas se casser la tête sur le fait qu'ils ont un chez eux? Qu'est-ce qui les convainc que c'est le fun, finalement, de prendre les mesures, de prendre action à faire changer leur mode de vie?
Notre machine à café est gratuite, n'est-ce pas? Quand les gens, ils visitent...
Ben, c'est un must. Si on a une machine à café gratuite, puis ça garde les gens au travail.
Qui dit non à ça?
C'est une petite blague, là, mais t'sais, c'est sûr qu'ils sont contents. Là. Mais t'sais, oui, d'avoir un toit, puis d'avoir aussi accès à leur chambre en tout temps. Ça,
leur espace, leur intimité?
Oui, vraiment, ça fait une différence quand même. Là, t'sais, c'est des gens qui n'ont pas eu accès souvent à leur chambre. Puis t'sais, dans les hébergements temporaires, ils vont y aller durant la nuit, puis après ça, ils vont devoir partir. Là, ils peuvent dormir s'ils le veulent, ils peuvent se lever plus tard, ils peuvent, tu sais, prendre le temps de se déposer, puis de me mettre aussi des choses, tu sais, quand tu te promènes avec des sacs à tous les jours, puis que tu peux pas les déposer à nulle part, tu perds plein de choses, fait que là, on prend vraiment le temps, ils peuvent, fait que je pense que d'avoir accès à vraiment un endroit, mm-hmm. puis dormir. Puis...
Y goûter, ça leur donne le goût de continuer dans cette voie-là.
Ouais. Exactement.
Hey, se déposer, ça, c'est tellement important en termes de santé mentale. Moi aussi, ça là, vraiment. Non, mais c'est vrai, tu sais, moi, je dis que pour ma propre santé mentale, j'ai besoin de mon 15 minutes où je me dépose dans la journée. Et là, je viens de me rendre compte en vous parlant qu'une personne itinérante a jamais l'opportunité de se déposer. Pour rappel, on parle avec Julie Tremblay, responsable du programme Prisme, et Florence Pouliot, intervenante. Une fois qu'ils partent, ils s'en vont où? Ils ont-tu une job? Le logement est à quel endroit? Ils ont-tu un filet de sécurité qui sociale? Paye? C'est ça, qui paye? T'sais, comment ça fonctionne une fois qu'ils ont fait leurs 3 mois qu'on dit « OK, j'ai mon étampe, Jean-François Fortin, t'as ton étampe du programme Prisme, on a mis une étoile dans ton cahier Canada, t'es prêt, vas-y. » Comment ça fonctionne?
C'est très, très variable. On travaille avec une clientèle qui est très différente. Mm-hmm. Donc, par exemple, la première question, où qu'ils vont, ça varie. Fait que ça peut être des logements autonomes, ça peut être des logements supervisés. On vise toujours, idéalement, des milieux subventionnés. Ça donne un coup de main pour...
Ouais. Pour se relancer, là, ben oui, exactement.
Sinon, ça peut être aussi dans les organismes avec lesquels on travaille en collaboration pour des gens qui ont peut-être encore besoin d'un petit peu d'encadrement, un petit peu d'accompagnement pour la suite. Sinon, pour le filet de sécurité, ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Puis un des objectifs primordiaux dans notre programme, là, c'est de mettre les gens en lien avec des suivis à l'externe, d'autres intervenants qui ne seront plus nous, mais qui vont pouvoir continuer à les accompagner dans la communauté. Réalistiquement, ça se peut qu'il y ait d'autres épisodes d'itinérance, mais le but, c'est qu'au moins, il y a des gens autour d'eux qui puissent rattraper un petit peu le coup quand ça arrive pour pas qu'ils soient seuls dans cette situation-là. Puis sinon, on parlait de reloques, on parlait de filet de sécurité.
Oui, filet de sécurité. Est-ce que ces gens-là, puis c'est Pascal ce matin, on en parlait, on disait, c'est difficile de se retrouver un emploi. Est-ce qu'il y a justement des organismes qui les aident à se trouver des emplois?
Pour ceux que c'est un souhait, puis que c'est quelque chose qui est réaliste, oui, il y a des organismes qui existent pour les accompagner, que ce soit un retour progressif, que ce soit des heures moins intensives, en collaboration, par exemple, avec l'aide sociale pour continuer d'avoir des prestations, mais pouvoir aussi occuper un emploi. Mm-hmm. Donc oui, il existe plein d'options.
OK, donc ça, c'est facilitant quand même dans votre travail. On n'aurait pas pensé ça toujours. Tu sais, moi, je me dis des fois, il y a peut-être des employeurs qui disent on est peut-être en même temps pas ceux qui sont réputés pour accueillir gens qui en ont besoin. Parlons aussi de ce cash-up. C'est sûr que vous rencontrez des problèmes, des nids de poules. Il y a sûrement quelque chose qui est dur à intégrer dans leur vie et de faire en sorte qu'il y ait un engrenage de changement. C'est quoi?
C'est sûr que l'accessibilité au logement, ça reste difficile quand même. T'sais, on le sait que dernièrement, quand on voit que même pour nous, les logements ne sont plus abordables comme ils l'étaient. Donc, c'est ça pour des gens vivant sur l'aide sociale qui ont environ 900 $ par mois. Se trouver un appartement, c'est rendu le prix d'un 3,5. Là. Fait que ça reste quand même un enjeu pour tous les clients, les usagers à Louis-Rivière. Là, ça reste un enjeu de la relocalisation, de trouver... c'est sûr que nous, notre souci, c'est vraiment que la personne se localise dans un milieu où ce qui est bien. T'sais. Ce qu'on veut, c'est qu'à la suite, que ça fonctionne.
Qu'elle souhaite y rester, qu'elle se sente plus chez elle qu'elle sentait dans la rue.
Exactement. Mais des fois, c'est difficile de trouver aussi le milieu qui est adapté. Puis il y a des délais d'attente aussi. Là. Fait que nous, on ne peut pas prendre la personne pendant un an et demi là, au programme PRIS. Fait que c'est sûr que des fois, ça peut être de respecter, mettons, que la personne, on trouve que c'est une ARI qui est vraiment adaptée pour cette personne-là. Mais ça, c'est des mois et peut-être des années d'attente. Fait que là, il faut essayer de trouver OK, où est-ce qu'on peut la mettre. Mais là, les autres organismes aussi ont des délais. C'est plein un peu partout.
Est-ce qu'on les échappe, ces gens-là? Est-ce que malheureusement, même si le travail était concluant, on avançait par les délais d'attente, il n'y a pas de solution, puis ils retournent dans la rue?
C'est pas ce qu'on souhaite, mais ça peut arriver aussi. Là, puis des fois, c'est des gens qu'on va revoir aussi. Là, c'est pas parce que la personne a fait le programme, qu'elle a complété, qu'on ne le reprendra pas plus tard non plus. Là. Si on voit qu'il y a des choses à améliorer, d'autres actions qu'ils peuvent faire, puis qu'on trouve que la personne est motivée, nous, on peut le reprendre aussi. C'est pas possible.
Vous fêtez les 1 an du programme. Est-ce que vous êtes satisfaite à l'heure actuelle des résultats? Et ma deuxième question, qu'est-ce que vous avez besoin de plus? Avez-vous besoin de plus de place? Y a-t-il trop de demandes?
Bien, là, c'est sûr qu'effectivement, au début avril, ça va être notre 1 an du programme Brice. C'est sûr qu'on souhaite toujours plus de place. C'est plein partout dans les ressources. On le voit dans le milieu communautaire. J'ai des appels, des fois, les gens, les travailleurs sociaux ne savent pas où les référer parce que c'est plein. Mais il faut plus, tu sais, l'accessibilité au logement subventionné, je pense que ça reste vraiment quelque chose qu'on doit travailler. Tu sais, quelqu'un qui attend 3 ans un logement avec l'office municipal, c'est pas, selon moi, c'est pas acceptable non plus, là. On la met où, cette personne-là, en attendant, là? Fait que c'est sûr que ça, faut travailler ça. Sinon, on a des rencontres bilan prévues la semaine prochaine en collaboration avec le CIUS aussi pour dire, OK, là, on s'en va justement dans les 1 an, vers quoi qu'on s'aligne, qu'est-ce qu'on fait. Fait que c'est dans nos projets un peu de rencontres bilan, là.
Florence, tu voulais ajouter quelque chose?
Non, je suis bien d'accord.
Très d'accord.
Avec Julie.
Julie Tremblay, Florence Pouliot, merci infiniment d'être passée dans nos studios à Boulevard 101, de nous avoir éclairé sur ce beau programme-là. On aime, Pascal et moi, parler d'itinérance, mais en positif, démontrer que ça se peut que les gens soient capables de se sortir de leur situation. Félicitations pour ce que vous faites. Pascal, quand je fais ma visite de l'Aube-Rivière là, au centre de jour, il y a des gens qui sont couchés par terre, ça crie, puis ça dort comme des enfants tellement que c'est difficile pour eux, la vie dans la rue. Fait que félicitations de prendre ces personnes-là et de faire en sorte qu'ils retrouvent une dignité humaine. C'est tellement important. Bravo pour votre travail.
Merci.
Fait plaisir. Après cette courte pause à Boulevard 101, on va faire le tour complet de l'actualité et également de l'actualité sportive. Pascal, imagine-toi donc Brad Marchand. Tu sais qu'on attendait à Montréal à soir.
Ah oh non.
Parce qu'il avait donné coup de coude d'en face à Mike Madison. Ben, il va être absent ce soir. Il sera pas sur la patinoire pour les Panthers de la Floride.
Son coach, ça veut dire le sécurise.
Oui, son coach le sécurise. Ou Équipe Canada, pour laquelle il va jouer aux Jeux Olympiques, a dit « Hey Brad, vas-y pas là. »
OK, parce qu'il va jouer sur Équipe Canada. Vous m'épuisez vraiment avec vos histoires de bataille qui est comme un peu due parce que là, il a agi en connard sur la glace. Puis
je comprends pas vraiment pourquoi on t'épuise. Mais bon, on s'en parle après la pause.
Jusqu'à 14.